l'air de beaucoup de personnes que vous avez trouvées dans le programme du nouveau GTLD. Notre section Getting Ready a 5 membres du panel très distingués. Nous allons parler IDEN géographique communautaire et quelques considérations importantes sur les associations stratégiques et des marques déposées. Cette session, ici, on considère que vous connaissez déjà le guide de candidature et que vous connaissez les exigences. On ne va pas parler de date parce que peu importe ce qui se passe vis-à-vis des dates, il y a certaines choses qui doivent se passer maintenant pour être préparées et en termes de ce que l'on considère comme demande ou comme candidature. Par exemple, vous devez comprendre en tant que communauté comment vous approchez des organisations, comment vous approchez des gouvernements, quelles sont les choses que vous devez faire et celles que vous ne devez pas faire. Et les IDN sont un type de TLD très spécifique qui ont besoin de connaissances et il y a certains enjeux auxquels on doit faire face. Les propriétaires des marques, qu'ils demandent ou pas le TLD, ils doivent comprendre ce qui se passe avec la gestion des marques. Il est probable que l'on va avoir besoin de connaître davantage sur les pratiques, peu importe s'il s'agit d'un candidat ou pas. Je tiens à remercier le temps et l'expérience que nos orateurs partagent avec nous. Ceci n'est pas un soutien des services offerts par les orateurs. Et je veux vous rappeler que la session est organisée de la manière suivante. Chacun des orateurs commence avec celui qui est dans l'autre bout et chacun va parler pendant 20 minutes d'un thème spécifique. Et puis à la fin, on va avoir une séance de questions-réponses. Nous allons aussi recevoir des questions de nos participants à distance. Profitez de cette réunion. Nous allons finir à 7 heures, et puis nous avons le gala. Je m'appelle Danton Frax. J'ai participé de cette industrie depuis longtemps et je vais parler maintenant au premier segment de cette session sur les associations stratégiques et certaines considérations importantes à comprendre lorsque l'on parle du budget et d'autres questions dont il faudra tenir compte pour avoir le domaine de premier niveau prêt à être utilisé à un moment où l'application doit être acceptée jusqu'au moment où elle est lancée. La première chose à dire sont les chiffres publiés à partir de l'ICANN et qui figurent dans le guide de candidature. Sans doute vous les connaissez déjà. Vous savez les $185,000 qu'il faut payer lors de la présentation de la candidature que l'on paie à l'ICANN. Et il y a des remboursements de cet argent. Il y a d'autres fees à payer, d'autres sommes à payer aux fournisseurs de services et je vais parler de cela dans une prochaine diapositive, mais il est important de comprendre quelle est la structure de ces charges dans les associations que l'on décide de faire et la clé c'est de s'assurer que ce soit des associations stratégiques, c'est-à-dire que les gens que l'on va choisir connaissent les composantes, qu'ils soient d'accord avec les objectifs de votre TLD. Il y a d'autres frais à payer, comme par exemple les $25,000 annuels que l'on paie comme frais de registre ou le montant de transactions que l'on paie circonstanciellement. Eh bien, maintenant, nous parlons aussi de l'évaluation. Il faut considérer les coûts. Je voulais signaler cela tout particulièrement. Merci pour la prochaine diapo. Il y a des questions à considérer entre ce que l'on doit réussir à avoir techniquement quand on a un registre. Et il y a plusieurs options disponibles aussi bien c'est-à-dire on peut l'opérer soi-même ou sous-traiter certains composants. Vous devrez savoir quels sont les différents services qui vont être opérés par vous-même en termes de concurrence, de contrôle, de sécurité ou de processus, ou même depuis un point de vue totalement financier. Les services de registre ont besoin de questions comme des systèmes de fourniture ou d'approvisionnement, comme le EPP, la présentation du WHOIS, et d'autres manières d'administration de registre. Si l'on pense à l'interface de l'administration, on doit pouvoir non seulement donner un service au client final, suivant la structure, ou dans un canal s'il s'agit d'une marque. Le système de résolution est très important parce qu'il n'y a pas d'instance, alors les différents individus fonctionnent. Quand un domaine est enregistré, on peut l'enregistrer, mais si le DNS n'est pas là, ça ne va pas fonctionner. C'est fondamental. C'est une question fondamentale à en tenir compte. Nous voyons aussi les services des registraires. Suivant l'intégration verticale actuelle, il y a beaucoup de modèles disponibles et dans certains cas, on peut avoir un registraire qui fait partie d'un registre. Ceci peut se présenter sous forme de marque qui peut représenter le département des ressources humaines qui a un registraire et le département IT a aussi un autre registraire. Alors, ils pourront séparer l'accès aux différents noms. Personne ne veut que les gens des ressources humaines puissent accéder à un site web. Et s'il y a des choses qui se passent au niveau des ressources humaines, c'est les gens des ressources humaines ne veulent pas que les employés IT le sachent. Hein. Ça se passe dans toutes les sociétés. Il y a un tas de choses à considérer. Brent va nous parler de cela dans sa présentation sur les marques, mais il y a d'autres questions lors des processus de validation. Les marques peuvent être révisées à Sunrise et ceci peut être sous-traité également. Voici quelques-uns parmi les composants. Il y a aussi des services d'options pouvant être réalisés. Il y en a même des applications dans lesquelles le nom de domaine permet tout simplement d'autres technologies comme le widget ou créer des espaces de domaine comme par exemple .tel ou d'autres. Il y a plusieurs technologies applicables. Dans les considérations que nous faisons pour choisir une association stratégique pour tous ces composants, comme vous le voyez sur l'écran, il y a une question linguistique, culturelle et même civique qu'il faut tenir compte. Et hypothétiquement, on peut dire qu'il y a un domaine, en allemand par exemple, et on peut choisir si l'on travaille avec le gouvernement de l'Allemagne ou peut-être avec TIN, le registre de CCTLD local, parce que ils sont plus proches de ce type de technologie et des règles spécifiques applicables en Allemagne. Amadeo, je crois beaucoup à point 4. Je crois que c'est un exemple excellent d'un service à une communauté culturelle et à une culture linguistique. Ceci a été développé par un groupe dans lequel on a travaillé avec Hall pour pouvoir le mener à bien. Un autre sujet auquel il faut penser, c'est la capacité et l'escale. Quelle est la capacité et l'espace du nom de domaine que nous allons mettre? Peut-être je veux avoir 50 registres et pas nécessairement je dois avoir les grands fournisseurs. Ça, je peux le faire. Autrement, il faut penser à la capacité d'avoir cette capacité-là et voir la manière de mettre cela ou d'organiser cela suivant notre objectif. Le coût et l'investissement, est-ce qu'il vaut la peine de faire un centre de données si je n'en ai pas? Est-ce que Ça vaut la peine. Peut-être, si je pense au prix par unité, c'est mieux de sous-traiter si je trouve quelqu'un qui ait la capacité technique. J'ai le personnel pour le faire et si je pense à d'autres types d'aides, comme par exemple si l'on va m'aider avec mon application, si je travaille avec ce fournisseur, il y a un certain segment du monde des applications qui va avoir besoin de respecter certains éléments techniques et beaucoup des fournisseurs avec lesquels nous travaillons peuvent nous aider dans ce sens. Il y en a qui doivent nous fournir le marketing. Dès que l'on aura lancé cela, on va nous donner l'assistance. Et si nous choisissons de faire cela, eh bien, c'est des questions peut-être importantes à considérer si vous pouvez accéder au canal des ventes. Il faut considérer d'autres facteurs. Ce fournisseur a travaillé avec un GTLD. Est-ce que ce fournisseur a demandé un nouveau GTLD? Il l'a déjà opéré. Combien de GTLD ou de CTLD opère-t-il actuellement? Voilà des facteurs importants auxquels il faudra penser lors du choix de l'associé ou du partenaire du registre. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir que ce que je veux vraiment laisser aux gens, il est important de comprendre les besoins. Le grand défi, cependant, c'est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Autrement dit, la meilleure manière de comprendre les besoins, c'est justement de revoir des questions qui puissent nous aider à trouver un partenaire avec lequel nous pourrons travailler et qui remplira toutes les exigences nécessaires. J'ai fait une requête de registre où j'ai reçu des réponses de beaucoup des fournisseurs de services de registre que l'on voit ici dans les couloirs et qui va être publié dans peu de temps. Mais ces candidats figurent dans l'enquête. Cela nous aide à choisir certaines parmi les questions que l'on veut inclure et avoir les réponses pour pouvoir justement vous donner les réponses aux candidats. Je voudrais mentionner également que j'ai le privilège de participer. Ce n'est pas sur la diapo, mais je participe à une conférence de Dell pour enseigner la conférence .NET qui va avoir lieu à San Francisco avant la réunion numéro 40 de l'ICANN où les gens pourront apprendre davantage sur ce volet. C'est dot.nex.com. Je tiens à vous remercier de votre attention et je passe la parole à mon collègue Monsieur Brian Winterfeld. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Brian Winterfeld. Je travaille à Washington, États-Unis. Je tiens à remercier l'ICANN de me donner l'occasion de vous parler cet après-midi sur ce que doivent faire les propriétaires des marques pour se préparer pour les nouveaux programmes de GTLD. Nous allons parler de l'importance et des opportunités pour les propriétaires de marques de GTLD et nous allons parler également sur le planning du processus d'application. Nous allons recommander aux propriétaires de commencer immédiatement et nous allons voir les changements aux stratégies de renforcement pour les domaines de premier niveau. Comme vous savez tous, il y a 21 TLD. À l'heure actuelle, le nouveau programme va augmenter de manière exponentielle la quantité de TLD disponibles. Ceci va fournir aux propriétaires des marques de nouvelles opportunités et des manières de promouvoir leurs services. Et on devra tenir compte aussi d'autres questions vis-à-vis de l'application. La période de demande sera ouverte jusqu'en mai 2011. Je recommande donc à mes clients de le faire dès maintenant pour être prêts. Je crois qu'il est important, et nous avons beaucoup entendu parler de la protection des marques et d'autres mécanismes. Et il est important de se rendre compte qu'il y a des bénéfices vis-à-vis de la participation dans les nouveaux programmes de GTLD. C'est une opportunité pour créer un contrôle différent de l'espace des noms de domaine sur l'Internet et d'éviter que d'autres parties puissent enregistrer d'autres GTLD. Il peut y avoir une augmentation du profil de l'entreprise et le montrer comme un élévateur technologique dans le sens que cela peut-être une entreprise qui utilise très bien le web. Il est important que les propriétaires des marques considèrent le fait que l'on va avoir une fenêtre dans la période d'application. Et le guide de candidature nous dit qu'il pourrait y avoir une ouverture de fenêtre d'ici un an. Mais bien sûr, il n'y a pas de garantie et peut-être l'opportunité il est probable que toute cette période n'existe plus.
Une question importante à se devoir ceci comme une décision importante pour l'entreprise. Si vous êtes la personne de la société responsable du nom du domaine ou vous protégez la marque de l'entreprise, et bon, c'est une décision importante à prendre. J'encourage Melguian à se réunir en équipe de parties intéressées fonctionnelles pour éduquer et aider à prendre ce type de décision. Je crois qu'il y a une ouverture potentielle d'application d'ici 6 mois qui sera très importante. Il sera très important de voir ce processus commencer immédiatement. Les parties intéressées doivent travailler réunies avec les secteurs légal, marketing, développement des produits, des cadres TLD avec une participation dans ce processus. Et je recommande à mes clients des entraînements sur le nouveau programme GTLD pour toutes les parties intéressées pour garantir que cette formation arrive au public et spécifique. Le budget, c'est une autre question importante. Comme Jonathan l'a dit, au-delà des applications, il y aura d'autres choses à payer en incluant sa société avec laquelle vous allez former une société. J'encourage mes clients à penser qu'il ne sera pas question d'un seul budget, mais que vous devrez analyser les parties intéressées qui vont se réunir et comment on va distribuer le budget entre toutes ces parties. Il faudra aussi penser comment l'entreprise va employer les nouveaux GTLD, quelles sont les opportunités en ce qui concerne les marques, ce que les clients feront pour se bénéficier du programme. Et considérant certaines des questions de marques, il est très important de commencer à voir les marques actuelles et le portefeuille de domaines et considérer à quelle marque nous voulons demander. Il faut penser, avant de prendre ces décisions, au développement corporatif et quel doit être l'investissement pour le nouveau GTLD. Il est important aussi de penser soigneusement autour de consommateurs, le marché en lui-même, quelles sont les marques qu'on veut enregistrer sur le nouveau espace GTLD, si ceci a vraiment un sens pour l'entreprise, s'il y aura un retour de la valeur investie. Et une fois les décisions prises, développer une stratégie de marketing pour arriver aux consommateurs et que les consommateurs commencent à employer ce nouvel espace de domaine pour la maximisation des bénéfices de l'entreprise. Jonathan a parlé du budget. Il est important de penser non seulement à ce qu'il faut payer pour la candidature, mais aussi à d'autres frais. Il faut participer des conflits alternatifs, des processus alternatifs pour résolution des différends. Il y aura d'autres choses à payer. Il faut tout planifier dans le budget. Je recommande à mes clients de commencer à préparer les budgets l'année prochaine, même s'ils ne vont pas demander de GTLD, qu'ils commencent à penser aux changements qu'ils devront faire avec une certaine stratégie d'application de Sunrise pour des questions importantes que nous allons traiter, même s'ils ne le demandent pas jusqu'ici. Et nous allons maintenant passer à ce que les propriétaires des marques doivent faire avant de la période de demande. Je recommande à mes clients de participer d'un processus pour émettre des commentaires, pour écouter d'autres opinions. Je crois qu'il y a une autre activité importante qui c'est celle de chercher les marques, les étudier et voir quelles seront les priorités d'accord accomplissement qu'ils pourraient trouver et de s'associer avec d'autres partenaires pour les aider à respecter les périodes légales dans la période de candidature et qu'ils considèrent le budget nécessaire. Au cours de la période de demande de candidature, il est important de analyser les candidatures de tiers et qu'ils envoient les commentaires écrits sur les préoccupations. Il est également important que, en plus d'avoir la procédure potentielle de toute objection ou opposition, parce qu'on peut faire des commentaires sur les applications aussi, hein, parfois, hein, par rapport aux oppositions faites par l'organisme de contrôle. Et il est important aussi de présenter directement aux organisations et commencer à penser comment répondre à une objection, hein, et planifier également les choses au bureau de marque ces brevets, hein, comment on doit penser comment présenter tout ceci. Et il y a une autre question sur le programme de post-délégation, hein. Vous pourrez adapter les noms de domaine au nouveau GTLD. Vous aurez déjà un nom de domaine installé et vous devrez donc considérer certaines choses comme l'importance de l'évolutivité du marché et de l'affaire et l'importance de la marque et le non-respect dans une activité et ajuster tout ceci au nouvel espace au fur et à mesure de l'expansion. Il est important également de considérer d'autres mécanismes de protection à disposition et que vous bénéficiez de ces mécanismes s'il y a une violation de nombre de domaines, un non-respect, des abus, hein, de présenter donc une plainte si ceci arrive. Et il est également important de continuer à tout contrôler, avoir les activités à jour et constamment contrôlées. Donc, pour résumer, je crois qu'il est important pour les propriétaires de marques de comprendre les bénéfices et les risques de participer à un nouveau programme. J'ai été l'idée d'avoir toute l'équipe unie pour pouvoir acheter et mêler à toutes les parties intéressées pour la demande d'un nouveau GTLD. Il faut aussi penser, hein, si on demande une candidature, quelles sont les étapes à suivre et être préparé pour ce nouvel espace, connaître quelles sont les perspectives dans ce domaine de premier niveau et de deuxième niveau. Et il est également important de développer des stratégies actualisées dans ce nouvel espace pour toutes les parties en jeu.
Excuse me, my name is Bart Mackey.
Je suis Bart Mackey et je remercie l'invitation ici, hein. J'ai participé de cette communauté pour longtemps peut-être, mais c'est toujours un plaisir de venir ici vous parler des choses nouvelles. Vraiment, hein, c'est très intéressant parce que j'étais un peu raide pour un certain temps. Donc c'est très intéressant de traiter ces questions. Et je voudrais donc vous présenter un thème très intéressant, dans mon opinion. Et c'est vraiment un défi, hein, parce que nous traitons avec les gouvernements et ce n'est pas simple, souvent, particulièrement par rapport aux nouveaux TLD. Je sais que vous avez peut-être essayé de vous avancez avec des normes géographiques de premier niveau et vous savez ce que je dis, hein, parce que chaque gouvernement a les propres règles au niveau local, de l'État, des provinces et d'autres niveaux, hein. Donc il y a toute une diversité. Ce que j'essaierai de faire, c'est de vous présenter des commentaires pratiques, hein, pour savoir ce qu'il y a sur l'orientation au candidat, hein, sur le guide. D'après l'expérience des dernières années de travail dans ces secteurs particuliers et surtout sur les normes géographiques. Et je veux porter votre attention sur le fait de ce que si vous voulez un nom géographique, la première chose, c'est, hein, est-ce qu'il y a un gouvernement, un jeu ici? J'ai besoin de l'approbation ou la non-objection de la part du gouvernement. Moi, je ne peux pas penser imaginons, c'est pas un lieu égaré à la Dakota du Sud où le gouvernement ne participe pas. Il est difficile de penser à quelque chose, hein, mais c'est une question très importante pour commencer avec notre nom géographique. Et là, il faut aussi commencer à penser qu'il y a toujours une autorité gouvernementale qui va faire une réévaluation et qui se mêlera de la chose. Hein. Donc, il faut diviser, et ceci est divisé en quatre catégories dans les guides de candidature, les villes capitales ou noms de villes, disons, hein, noms de lieux sous-nationaux qui peuvent être tout particuliers avec différentes qualifications. Certains noms peuvent être, c'est pas un county aux États-Unis, hein, ou des provinces ou des États donc il faut avoir le nom exact, correct dans la définition de ville. On ne parle pas de la définition exacte, mais bon, si pour le cas de certaines villes du monde entier très reconnues, hein, les noms officiels parfois sont différents du nom avec lequel on les connaît. Hein? Mais bon, il faut traiter ceci au fur et à mesure de la préparation de la demande pour garantir que la chaîne de caractères à demander reflète exactement les règles. J'ai oublié les régions de l'UNESCO, par exemple, qui représentent 60% de candidatures qui ne sont pas traitées dans le même temps parfois. Hein. J'ai quelqu'un ici à côté qui va répondre à ces questions au moment des questions. Et pour commencer, il y a d'autres questions que vous devez considérer, des questions pratiques. Hein. Dès le début, vous devez connaître votre gouvernement, c'est qui ce gouvernement, hein? Vous devez connaître où vous vous trouvez, hein, par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gouvernements, par exemple, dans certaines villes, qui ont une approche assez légère, hein, sur cette question de traiter une demande ou de l'approuver. D'autres, comme... voyons... Il y a d'autres qui ont un style plus de contrôle sur plusieurs aspects de politique des prix, par exemple, dans ces nouveaux GTL, et tout ceci aura un impact, un effet. Donc, il faut comprendre ce que le gouvernement veut. Donc, il faut trouver quelqu'un pour demander, créer un lien avec la personne appropriée. Si vous ne l'avez pas fait, c'est tard peut-être, hein? Parce qu'il sera difficile de trouver un nom géographique à cette étape. Je connais une personne qui avait une application et ils ont attendu plus de 12 mois pour un nom géographique. Et si on calcule ceci, on dit « Ah, je suis en retard par rapport à où je voulais être ». D'autres gouvernements sont plus agiles, peut-être. Donc, ça dépendra. Et ceci, donc, va toucher vos politiques, évidemment. Et bon, c'est toujours que le nom géographique soit lié à la chaîne que vous demanderez. Et il faut aussi garantir le respect des politiques et les objectifs de la communauté. Certains des noms de TLD géographiques auront une série de politiques bien définies, établies par le gouvernement sur la question et d'autres non. Donc, vous devrez consulter comment les choses sont avant de commencer toute demande. Et tout ceci fait partie du processus de planification. Vous devez également rappeler que la demande a un effet de domino. Hein. Donc, il y a des applications qui se sont préparées dans le passé, dans d'autres tours, et qui ont mis quelque chose dans une politique, par exemple dans un article de la demande. Et on a oublié que cette politique touchait non seulement cet aspect, mais également la partie financière et technique, par exemple, du site. Mais ceci n'était pas reflété dans toute l'application. Donc, vous devez toujours penser à cet effet, hein, domino, qui parfois se font au commencement, avec la politique qui va dicter le gouvernement. Et je vais parler également sur une série de questions qui seront très liées Mais dépendant du moment des conversations avec le gouvernement. Les gouvernements sont difficiles, mais parfois ils sont des partenaires très puissants pour le marketing et pour le succès. Hein. N'importe quelle soit la chaîne de caractère de la communauté des CCTLD. Hein. Et ceci est très habituel. Hein. Et comme une forme pratique, je parle à beaucoup de personnes qui considèrent les demandes avec une crainte importante qui est toujours que l'emphase soit de gagner l'application, de gagner la demande de candidature. Et finalement, ils disent « Ah, mais moi, si je le fais, ils viendront. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que une considération que vous devez avoir, c'est que le gouvernement est un partenaire stratégique pour faire le marketing de GTLD, parce que ce sont des noms géographiques. Hein. Si vous ne le pensez pas maintenant, hein, je vous propose que... Je vous dis que demander un nom géographique est une erreur. Hein. Vous devez développer des associations pour de partenariats pour le GTLD non géographique. Hein. Il y a un groupe naturel d'affinité d'associations qui peut se faire avec les gouvernements, avec d'autres organisations du gouvernement de la région géographique en question. Ce n'est pas seulement une ville parfois, hein, ou le maire de la ville, mais aussi les chambres de commerce, les agences de développement. On doit vraiment établir de partenariats avec tous ces groupes, non seulement pour obtenir le GTLD, mais aussi pour développer du marketing pour le moment du lancement. Hein. C'est ça qui est important. Et vos gouvernements demandent aux partenaires de les aider à faire ceci. Et j'ai participé de plusieurs situations de ce genre. Et ceci m'aide à garantir le succès du TLD. Hein. Donc, je vous dis, j'insiste, vous devez faire ceci. Hein. Il y a aussi le lien à la communauté. Il faut penser également que parfois, on ne comprend bien que s'il y a une ville, et moi, j'ai déjà... Tout prêt, hein, tout est disposé. Pourquoi est-ce que je dois qualifier avoir la considération d'une communauté, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de pratique aussi, hein? Quand on pense à la demande d'un nom géographique, il faut comprendre qu'il y a parfois d'autres requérants en concurrence par rapport à ce nom et qui vont forcer à une évaluation de la part de la communauté. Donc, il faut considérer tous ces aspects auparavant pour que le système ne vous laisse dehors, hein?
Il ne faut pas ignorer ce point qui est très important. Si vous pensez que vous l'avez, assurez-vous que l'aspect de la communauté est aussi couvert. Je tiens à vous rappeler aussi que si vous qualifiez ou pas pour le panel des noms géographiques, puis après on prend la décision si le nom géographique qualifie ou pas. Et si vous avez fourni la documentation nécessaire, les lettres de recommandation ou les lettres de non-objection qui bien des fois sont nécessaires, et bon, je ne vais pas entrer dans cette mécanique, mais c'est très important de tenir compte de tous ces sujets. Il va y avoir un panel qui va traiter de ça. Avant l'évaluation réelle, il faut faire une évaluation des preuves, disons. Je suis ici pour répondre à vos questions et à vos inquiétudes. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Amadeo Abril et pendant les 4 dernières années, j'ai travaillé pour le nouveau projet TLD. Avant ça, j'avais une vie. Mon rôle ici, et tout d'abord, je tiens à remercier Carla du fait de me dire que je n'ai que cinq minutes et cinq diapos. Et puis après, elle m'a dit que 20 minutes, hein, ça ne va pas fonctionner. Je vais utiliser tout mon temps, mais je n'ai que 4 ou 5 diapos. Alors, comme vous voyez, il y a une signature PGP. Maintenant, elle a imprimé ma présentation et je vois que je parle de la communauté. Ne vous effrayez pas, ce n'est pas une nouvelle règle que vous avez oublié de lire. Mais je me trompe toujours, j'ai une très mauvaise orthographe. On parle de TLD communautaire et de TLD basé sur la communauté. Les TLD communautaires vont être une catégorie logique et les autres vont être un ensemble de règles spécifiques que l'ICANN a établi pour le FAC ou comment vous voudrez le prononcer. Il faut comprendre que pas tout le monde, pas tous les TLD sont basés sur la communauté. Et le plus important, ce n'est pas d'être prêt pour l'application ou pour la demande, mais être prêt pour le TLD. C'est peut-être vrai pour ce type de TLD. Il faut faire le travail avec la communauté bien avant la présentation de la demande, parce que sinon, si les aspects techniques et financiers sont résolus, mais vous n'avez pas bien travaillé avec la communauté, ça va être un grand échec, bien triste. Hein? Nous ne voulons pas parler ici, mais ICANN peut le faire. Nous ne voulons pas parler de... Voyons, ma lecture du guide n'a pas été complète, mais ça, on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important d'avoir une demande communautaire? Eh bien, il faut qu'il y ait une bonne communauté. Voilà, cette diapo est bien. Il y a quelque chose sur l'écran. Il y a quelqu'un là? Le plus important sur les TLD communautaires n'est pas la reconstruction experte de l'application, mais le fait d'avoir une véritable communauté qui soit prête pour soutenir le TLD, outre l'application. Ce que je veux dire avec une bonne communauté, c'est que toutes les communautés ou tout groupe d'intérêt, que ce soit une communauté dans le sens de l'ICANN ou pas, ont un intérêt légitime, un droit à demander un TLD. La question est la suivante. Nous parlons d'applications qui doivent survivre, pas d'une période d'application, mais de l'opération du TLD. La plupart des personnes croient que cela est une question démographique ou qu'ils sont dans une, si je suis dans une communauté suffisamment grande, je vais avoir un bon TLD. Ce n'est pas seulement à Madé, aussi il y a beaucoup de gens sans cheveux dans le monde. Hein. Je ne sais pas que ce soit une bonne idée, le premier point d'avoir un TLD. Veut dire que on doit avoir une expérience très solide. Prenons l'exemple du point 4 que l'on a mentionné auparavant. Par exemple, une langue, un télé linguistique et culturelle. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous nous communiquons par Internet. Comment? Eh bien, avec des outils linguistiques. Nous écrivons, nous lisons, nous parlons. On peut passer des heures à faire cela. Mais ça, ce n'est pas la plupart du temps. Et avec qui? Bon, avec d'autres personnes qui vont comprendre ce que nous parlons, avec les personnes qui comprennent ces langues dans une situation de compréhension de la langue. Le distributeur Internet coréen est très faible parce que je ne parle ni le polonais ni le coréen. Cela ne veut pas dire que nous sentons que nous sommes pareils. Il y a des Catalans que j'aime bien, il y en a que je n'aime pas du tout. Et avec lesquels je ne vais jamais dîner ensemble. Si je trouve un Catalan dans la rue, ça ne veut pas dire que je vais l'inviter à dîner parce que je parle catalan. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup de relations différentes et il est vrai que nous avons une tendance à visiter les mêmes services, jouer les mêmes jeux, chercher les mêmes guides, etc. Pourquoi? Parce que nous nous communiquons sur l'Internet à ce niveau. De l'autre côté, j'aime tout le monde dans ma famille, ça c'est officiel. Hein? Je vais dîner ou je vais déjeuner fréquemment avec mes parents, ma femme, ma famille en général. Mais nous ne menons pas une vie de famille sur l'Internet. Chacun voit les choses différemment. Jusqu'à dire, tu pourrais quitter l'Internet et venir me parler un mot. Nous avons des intérêts très différents vis-à-vis de l'Internet. Mon père me dit toujours, cherche ça à Google, Donc, il est intéressé au climat hein, de la prochaine ville qu'il va visiter, c'est tout. Et ils ne sont pas intéressés au nom de domaine de l'icône, même pas marginalement. Nous avons une différence sociale très vaste, mais le fait d'avoir une famille serait une très mauvaise idée parce qu'il n'y a rien que l'on puisse partager sur l'Internet. On parle aussi d'une famille et encore pire lorsque l'on parle du point 4. Parlons des bâtiments, par exemple. Vous discutez avec votre voisin du troisième étage s'il faut réparer l'ascenseur, s'il faut s'occuper de la piscine ou ce qui ne marche pas au cinquième étage ou quoi que ce soit. On se réunit tous les mois avec ces gens, n'est-ce pas? Mais je ne pourrais pas imaginer à mon adresse, hein?
Ouais, mon adresse.
C'est une différence que l'on ne va pas partager. Ne considérez pas seulement ce qui est démographique ou l'amour parmi les individus. Considérez combien de fois vous faites choses agressives et qui ont à voir avec la vie. C'est une bonne mesure pour savoir s'il y a une communauté. On n'a pas seulement le droit ou l'intérêt, mais des véritables possibilités de survivre. L'ICANN à transformer un registre en quelque chose de cher. Hein? Avoir un registre actuellement est bien plus cher que ce que l'on faisait avec le NIC. Si l'on pense au point web, point sex, point com, on peut dire que le reste des ressources sont bien au-delà. Mais le jeu, c'est ça. Il faut tenir compte aussi que nous avons besoin. Il y a des institutions solides et ces institutions solides qui sont offline de la communauté sont embarquées non seulement pour nous donner leur support, mais pour la structure de la gouvernance. Je sais que lorsque je parle des NES et des EPP, je sais que ceci est un défi, mais un beau jour, ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer. Je ne parle pas des extensions de l'EPP, mais je parle du côté de la gouvernance. Je m'excuse d'avoir utilisé ce terme. Il faut parler de la communauté, il faut dire qu'il doit jouer un rôle et non seulement donner une lettre, mais leur donner des rôles qu'ils puissent effectivement jouer. Il faut établir une liste de participants, non seulement de personnes qui soutiennent le projet, mais que ce soit les institutions représentatives les plus solides et que certains parmi eux puissent jouer le rôle de l'ange. C'est-à-dire, l'ICANN va vous demander de montrer comment vous allez pour survivre dans un monde où on ne peut pas enregistrer un TLD pendant les 100 prochaines années hein, et payer tout le temps. Alors, vous aurez besoin de gens qui n'investissent pas de l'argent, mais il faut dire que s'il y a quelque chose qui fonctionne mal, eh bien, je suis engagée à ce que le registre soit au vif pendant quelques années en payant X sommes d'argent. Ces institutions peuvent avoir une sauvegarde finale pour prêter des espaces pour des bureaux ou donner du support administratif, légal, du support vis-à-vis des impôts parce qu'ils ont ces départements et ils peuvent faire partie du projet lui-même. Si nous avons tout cela, il faut penser aux associations stratégiques et au marketing. Il y a des questions qui sont importantes lors de la conception du projet communautaire. Le marketing ne veut pas dire marketing d'utilisateurs. Ce ne sont pas des experts externes qui ont des campagnes publiques. Il faut se focaliser sur la communauté. Qui est la communauté? Si les communautés sont X pour une définition, il faut savoir leurs canaux de confiance existants. Je vais vous donner un exemple. Sur le point 4, de grandes compagnies d'assurance, des banques, des clubs sportifs avec plus de 100 000 membres, des associations de pairs qui ont des revues pour les membres, tout cela, on le reçoit une fois par mois. Alors, la meilleure manière de faire leur propre marketing, c'est à travers des canaux existants. Il ne doit pas y avoir un nouveau registre, mais l'histoire que vous raconterez est racontée par des personnes avec lesquelles vous vous communiquez. Et ces personnes reçoivent des revues, newsletters, etc. Ça, on le sait au niveau de la communauté, dans notre quartier, il y a quelque chose de neuf qui va venir. Et ceci s'est avéré plus effectif et toujours de manière gratuite. Et alors, il est préférable cela que de dépenser dans le marketing traditionnel. N'oubliez pas de faire des listes des personnes qui vont vous soutenir parce que ces personnes ont des connexions avec les personnes à la fin de ces canaux. Quant aux associés ou aux partenaires stratégiques, il y en a un en particulier qu'il faut ajouter, à savoir l'autre candidat communautaire. Point Berlin ne peut pas être en concurrence avec Point Sacramento en Californie, par exemple. Point 4 ne peut pas concurrencer avec Point Arab. Museum n'est pas concurrent du Point Library. Il y a beaucoup de choses à partager et à offrir à ce marché, à cette communauté.
Les modèles de lancement, les procédures de Sunrise, les PP, et aussi d'autres qui peuvent partager beaucoup d'expériences entre eux, hein, parce que chacun sera plus fort dans un seul secteur, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à être concurrent, hein, et probablement vous trouverez un grand intérêt dans cette coopération. Donc, ajoutez à vos listes de partenaires stratégiques ces personnes-là. Et si vous appartenez au secteur communautaire, bon, ajoutez tout le reste, hein. Et finalement, vous devez rappeler que vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, hein, dans les travaux importants de la communauté et à l'extérieur de la communauté. Un tel dit d'une communauté n'est pas seulement une ressource technique, ce n'est pas ce qui le fait intéressant à la communauté, mais c'est une question sociale. Et on veut ce TLD pour promouvoir quelque chose au sein de la communauté. Il faut y travailler à ce propos. Il faut remarquer que la plupart du travail est de convaincre la communauté de l'utilité, hein, et de donner support à ceci. Si on le fait, donc nous allons passer le processus ICANN. Vous allez réussir à ce processus parce que si vous ne le faites pas, donc vous allez rater l'ICANN aussi, hein. On peut choisir de suivre une quantité de règles spécifiques sur les guides basses et sur la communauté ou CPA. Hein? CBA. Hein? Il y a une définition là qui ne dit pas trop. Hein? Okay, mais bon, à la fin de la journée, fin de compte, ça veut dire que ICANN vous demande que si vous voulez être un TLD basé sur la communauté, hein, pour vous engager à certaines obligations. Donc, si vous vous engagez, hein, certaines obligations ne sont que pour la période de demande. Mais d'autres sont inclus sur le contrat quand vous devenez un GTLD. Hein. Et s'il y a plus d'un demandeur pour la même chaîne, par exemple, et vous êtes la communauté, hein, la demande basée sur une communauté avec priorité, bon, vous aurez une préférence dans ce cas. Hein. Vous allez avoir le TLD sur la préférence d'autres qui ne sont pas basés sur la communauté ou qui disaient l'être, mais qui vraiment ont raté l'examen, cette évaluation de l'épreuve, de la preuve communautaire. Hein, c'est ça, hein, la forme de prendre les décisions. Et quelles sont les obligations? Non, excusez-moi. La diapo avant, hein? Les critères d'évaluation. Attendez. C'est un système d'évaluation complexe. Je ne sais pas s'il y aura le temps ou la clarté, hein, pour vous l'expliquer. Le plus important, c'est la fin, là, hein? Le soutien, le support. Hein? Vous devez faire ceci. Hein? C'est vraiment fondamental. Et s'il y a des problèmes de chaîne ou non, bon, en tout cas, il faut mesurer quelles sont les institutions solides donnant un appui écrit, hein, vraiment, c'est, ça doit être clair et exprimé par écrit. La plupart d'institutions importantes de la communauté doivent le faire. Ça, c'est une exigence, et, mais aussi, c'est très utile dans tous les sens, parce que donc, il faut, parce qu'il faut présenter ces documentations et après on va perdre des points si on perd une position parce que ce sont des institutions importantes de la communauté et on peut dire, ah, je ne peux pas amader au Seigneur le point en avril, moi, je suis le père et les frères, elle a une sœur plus jeune. Et, mais Amadeus sera un mauvais gestionnaire quand ils font le point avril, par exemple. Hein? Ça, c'est important. Mais l'autre question par rapport à ICANN est la dernière, hein? L'établissement. Ici, il y a certaines questions qui sont logiques, d'autres qui ne le sont pas. Disons qu'ils sont plutôt artificiels. Et pour ICANN, la véritable communauté est celle qui a un registre, un registraire des noms qui s'y trouvent, des numéros et une carte de membership. Les clients Mastercard, ça c'est une bonne communauté, par exemple, les employés de Disney, hein, et, mais ceux qui parlent le catalan, par exemple, ou n'importe quoi du même genre, que ce n'est pas exactement une carte, hein, a plus de difficultés dans ce point. Le problème ici, c'est que obtenir 14 points, le score de 14 points, ce n'est pas facile. Il y a certaines choses qui ne dépendront pas de vous, mais d'un autre. L'unicité du nom, par exemple, la forme de le définir aujourd'hui, hein, n'est pas très claire. Qu'est-ce que ça veut dire pour une communauté ou une unicité dans un sens global? Parfois, il faut employer un nom avec d'autres significations, parce que c'est le nom d'une communauté, d'une institution, un nom que tout le monde va reconnaître, ou même on peut le reconnaître dans d'autres contextes. Des liens entre la communauté et les TLD, hein? Quel est le lien entre point 4, catalan, et une communauté culturelle? Si on emploie la communauté de ceux qui parlent le catalan, hein, et c'est un lien parfait, mais c'est une chaîne mauvaise. Point 4, c'est la même chose pour nous, mais au moment de l'évaluation, ce n'est pas la même chose, peut-être. Il y a ici beaucoup de choses qui sont souples, représentatives, substantielles, et nous devons voir quelle est sa signification réelle. Qu'est-ce que ça veut dire, substantiel ou non substantiel? Bon, on ne le sait pas clairement, hein? Mais dans tous les cas, nous devons l'étudier. Et il faut aussi penser aux politiques, hein? Unicité, nexus, au lien, c'est pour l'évaluation. Mais vous allez, les politiques, bon, vous allez dire aux gens seulement ces personnes avec ces critères sont choisissables, hein, un point, zéro point, et vous allez exagérer, vous dire s'il y a un certain marche ou non, hein. Et il y a aussi le choix de nom, donc vous qualifiez, vous faites partie de la famille Avril, mais vous ne pouvez employer que Khaled Avril, parce que tout le monde veut employer ce nom Avril, hein. Ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas c'est le nom qui est gratuit, hein. Donc bon, le troisième point, c'est le nom Khaled Avril, hein, pour les relations de la famille Avril, parce que au contraire, on pourrait employer le nom enregistré pour le nom en catalan. Point 4. Bon, donc c'est non. Il faut avoir des mécanismes de crédibilité pour l'appliquer, pour les appliquer. Et dans mon opinion, le choix de nom, hein, c'est bon, il faut choisir l'un ou l'autre. La plupart de registres vont choisir un ou l'autre, mais pas les deux, hein. On peut pas penser à Khaled, Khaled comme un nom. Bon, donc, vous allez employer Khaled pourquoi, hein? Si le nom est libre et je peux choisir le roi du monde.Khaled, bon, il y aura une raison pour avoir cet emploi, ce contenu, d'après les réglementations pour ce nom choisi. Hein? Mais bon, vous devez toujours retenir c'est ici que vous promettez ceci à ICANN, mais aussi, il y a aussi un apport à tout l'accord. Et la plupart des personnes comprendront qu'étant donné les circonstances, il y a une série d'encouragements aux politiques de la demande. Je sais que vous allez employer un, c'est un ou zéro, hein? Il n'y a pas de secteur gris ici, hein? Et la dernière qui parle de support, bon, c'est très important, c'est une question de communauté, des GTLD, il n'est pas question de le débattre ici. Hein. La prochaine diapo. Hein. Finalement, donc, il y a quelque chose qu'il faut décider avant de passer par le processus ICANN, si on peut réellement demander ou non, en tant que GLTD, hein, de décider ou non, hein, est-ce qu'on peut faire face à tout ce processus? Bon, si on peut le faire, hein, si on peut, si on demande, hein, donc il y a deux choses qui peuvent se passer. Hein. Imaginons la demande parfaite. Bon, même dans ce cas, on peut trouver des objections de la part de la communauté. C'est un risque, bon, parfois, on peut recevoir des objections indépendamment de ce que les politiques d'ICANN décrivent. Mais si on est une communauté, même n'est pas étant en CBA d'après le guide du consommateur, hein, toute personne peut présenter une objection s'il pense que la question est liée à la communauté. Il y aura beaucoup de choses à prouver. Ceci change jusqu'à ce dernière version préliminaire. Ces objections n'avaient pas de chances de survivre parce qu'il y avait une défense absolue, hein, et c'était facile à obtenir. Maintenant, non, donc il faut étudier toutes les possibilités, tous les contextes. Hein, c'est énorme le matériel qu'il faut étudier et parfois le langage n'est pas très clair, hein, ou substantiel. Donc, parfois, on peut deviner un peu la signification, mais sans savoir quel sera le résultat dans la pratique. Donc, si on a une bonne application, on ne devrait pas craindre ceci, mais il faudrait faire attention à d'autres choses. Une surenchère, par exemple, hein, CCTLD, hein, où se trouve en première personne, le cas de Barcelone, de Paris, hein, par exemple, ou d'autres cas où le support, c'est le support d'institutions publiques comme Académie officielle de langue, des universités, des écoles. Donc, tout simplement, vous ne pouvez pas, donc, par des raisons politiques, ne peuvent pas être susceptibles de surenchères et on ne peut pas donc arrêter dans une enchère le nom de Barcelone. Imaginez-vous, ils ne peuvent pas perdre, ils préfèrent de se retirer que de se présenter à une surenchère. Parfois, il y a des décisions à niveau politique et on ne peut pas imaginer une concurrence avec un TLD commercial pour l'achat d'un nom, mais si on va, on peut le forcer dans le cas d'une surenchère. Hein. Parfois, on peut être au poste 14 et on peut rater la chose ou finalement décider de ne pas le faire ou une autre personne finit avec le nom. Donc, il faut voir si on peut vraiment courir le risque de faire face à une objection de ce type. Est-ce qu'on peut le faire, donc, d'être se voir forcé à passer à une surenchère, parce que même si on est le gagnant, finalement, qu'est-ce qu'il y a de la réputation, hein? Parce que si on ne demande pas, on demande à la communauté marginale, maintenant il y a des chances.
To prevail.
On a la chance de réorganiser pour gagner l'adhésion de la communauté, excepté le cas où on puisse avoir quelque chose de génial, c'est-à-dire prouver que l'on est établi, etc., etc. Mais il faut prouver le dommage provoqué à la communauté, le détriment provoqué à l'Internet. Alors, s'il y a une véritable famille de TLD réel, par exemple, Amadeo, et on a besoin de prouver que ma demande est aussi sous les mains de Khaled Eba, et alors ce sera difficile à faire. Peut-être personne ne sera intéressé à cela. Hein? Ça, c'est clair, et probablement, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Hein? Même si c'était le cas maintenant, c'est plus facile si la plupart des organisations sur les communautés organisées freinent et disent, par exemple, voilà une demande qui est mauvaise, négative, avec de mauvaises idées des parties marginales de la communauté. Alors, que se passe-t-il si vous, par exemple, vous ne demandez pas une demande basée sur la communauté parce que vous voulez le faire depuis une autre place comme CBA, par exemple. Il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas non plus de litige de la chaîne de caractère. La seule conséquence, c'est que les politiques auxquelles on est engagé va faire partie de son accord. Alors, il faudra voir s'il y a quelqu'un disponible pour négocier, etc. Et ceci va devenir plus cher d'après mon expérience. Cas contraire, si au cas d'une vente aux enchères, eh bien, vous trouverez les mêmes problèmes que je décrivais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'aides de la communauté ou basées sur la communauté, à savoir des applications standards, vont être exécutées par les ONG. Alors, il va y avoir beaucoup plus de problèmes pour obtenir de l'argent pour faire une vente aux enchères, par exemple. Ça représente donc un véritable risque dans ce monde où nous savons qu'il y a de gros poissons qui veulent jouer le jeu stratégique. Je crois que Carlos veut me tuer parce que j'ai dépassé le temps que l'on m'avait octroyé. Souvenez-vous, dans ce monde, on a des besoins avec des candidats, des communautés que nous travaillons pour pouvoir entrer en concurrence dans des applications pour obtenir de l'argent, tout simplement. Alors, voilà, c'est un risque possible et franchement, avec cela, j'ai fini. J'ai dépassé mon temps. Merci de votre attention, mais il faut comprendre que la communauté pour le service public n'est pas si importante. C'est-à-dire... Merci, Amadeo. Je vais étirer un peu les jambes parce que je ne peux pas bien parler si je suis assis. Je préfère d'être debout et je vais essayer que ceci soit intéressant pour tout le monde. Écoutez bien. Je m'appelle Khaled Fatal et je suis ici pour vous parler des éléments IDN, GTLD, des nouveaux GTLD. Et on est ici pour vous informer ce que vous devriez savoir si vous aviez à vous préparer pour une présentation de candidature. Si l'on laisse la technologie, les diapos, les présentations à part, je peux essayer d'être plus interactif avec les participants de cette réunion pour que ceci soit plus éducatif. Vous qui êtes ici, ne me dites pas la chaîne de caractère, mais levez le doigt si vous pensez présenter ou demander un GTLD, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, conservez le doigt levé. Combien parmi vous pensent demander un IDN GTLD? Ceux qui pensent à présenter une demande de TLD en anglais, levez le doigt encore une fois. Merci. Je vous pose la question suivante. Avez-vous pensé aux ramifications des IDN dans votre GTLD proposé? Levez le doigt si vous l'avez fait. Et pour ceux qui n'ont pas les yeux dans la nuque, il y a très peu de mains qui ont été levées, hein? Je suis désolée de t'interrompre, mais je crois qu'il y a des gens qui peut-être écoutent par vidéo. Aidez-moi avec cela. Merci. Il y a 25 doigts levés par les GTLD ASCII et il y en avait 4 ou 5 pour ceux qui avaient considéré les ramifications des IDN. Hein? C'est moins de 10%. Pourquoi est-ce que cela est important? Les diapos vont se trouver dans le site web ICANN. Vous pouvez les télécharger si vous voulez. On peut les voir. Mais pourquoi est-ce que cela est important pour la plupart de ceux qui assistent aux réunions de l'ICANN, qui en général se déroulent en anglais? C'est le secteur où vous savez sur les GTLD en anglais. Mais comment pouvez-vous vous préparer pour ceux que vous ne savez pas? On ne peut pas. Alors, pour le dire brièvement, nous avons des questions critiques, des questions qu'il faut se poser pour la préparation d'une candidature. Le GTLD que vous avez proposé est un IDN primaire ou tout dans une seule langue, code ASCII. La raison, c'est que, passez à la prochaine diapo, si l'on demande un ASCII ou un GTLD en anglais, vous avez besoin de voir comment l'IDN peut faire que les risques de cette demande se réduisent si l'on n'a pas considéré tous les éléments concernés. Si on demande un IDN GTLD, on se dit, eh bien, la seule chose que je dois faire, c'est quelque chose en chinois ou le point arabe. En anglais et en arabe. Mais seulement en arabe, il y a des ramifications pour le faire en anglais. Vous savez bien que si on ne demande pas ceci sur une chaîne de caractère en particulier, on arrive en retard si une autre personne l'a déjà fait. Alors, il faut présenter des objections, s'opposer. Voilà tous des éléments significatifs. Et la conclusion est la suivante. Pour aller à ce qui est important, si vous ne vous engagez pas à une étude des IDN et leur relation avec vos propositions et avec vos GTDL, que ce soit ASCII en anglais ou des IDN, si vous ne considérez pas toutes les ramifications de tous les éléments des IDN et de sorte de considérer les risques et les opportunités indépendamment de ce que vous ayez planifié, vous vous engagez avec les possibilités que votre demande ait du succès. Hein, vous mettez cela en risque. Alors, voilà l'un des sujets traités, la marque, la communauté, la région, mes chers collègues. La suivante encore. On parlait de ça. C'est une étude, une vaste étude. Il faut penser à un scénario. Voyons. J'ai besoin d'un point building en anglais. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux gagner de l'argent avec ça. Alors, que se passe-t-il? Comment savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui demande un point building bâtiment en arabe ou en chinois? Donc, si on veut spéculer, on peut faire une marque globale qui occupe le cyberespace, biens immeubles, ou sinon, imaginez, si on est une marque et vous avez pensé à toutes ces fonctionnalités, à tous ces éléments, aux risques et aux opportunités, vous pouvez peut-être découvrir que dans la langue considérée, en grande profondeur, et si ceci est approuvé pour une autre personne, la marque globale du réseau a été interrompue. On l'a perdue potentiellement. Vous m'avez suivi? Il ne s'agit pas des IDN et de savoir quel est le script qu'il faut choisir, quelle est la chaîne de caractères qu'il faut choisir, tel que les autres orateurs l'ont mentionné, mais arriver au cœur de la question pour voir ce que l'on a besoin vis-à-vis de cette demande, quel est du succès pour l'approbation, mais aussi du point de vue du marketing et du lancement.
La question donc, c'est si vous avez fait cette étude approfondie, hein? Comment savoir si vous avez pris une décision informelle, mais clairement étudiée, hein? Au moins, je vais imaginer que 400 de ceux qui ont levé la main ont fait cette étude approfondie, hein? et qui probablement donc ils essayent de prendre une décision bien pensée, hein, bien consensuelle. Donc ils pensent à dépenser 85 000 $ pour une demande et quelques centenaires de milliers pour des déplacements en communauté, dépenses X. Donc ce sera un exercice de dépenses que vous devez étudier clairement, parce que si sinon, vous n'aurez pas fait vos devoirs, clairement, hein, et vous allez perdre des possibilités de succès. Et pour revenir à ceci, hein, ce sont quelques-unes des questions qu'il faut considérer comme complément. Hein. Vous ne devez pas confier à... vous devez savoir quel est le fournisseur de registre correct, hein. Vous pouvez étudier ceci, mais vous n'analysez pas ceci. À partir de l'objectif de l'application, hein, qu'ils aient les meilleures chances à niveau de risques et opportunités. Donc, on ne pose pas les questions correctes de l'opérateur d'enregistrement potentiel et quel type de service il va vous offrir. Ce sont toutes des questions très importantes et l'une des principales questions, c'est que vous pouvez penser que vous avez les fonds nécessaires, hein, pour pouvoir avancer sur, par tous les processus. On a déjà parlé de ceci, hein, auparavant. Donc, si la surenchère et les secteurs où on peut affirmer vraiment la mort, hein, ou la garantie de cette application de demande, hein, ou d'approbation de demande. Bon, il faut reconnaître quand même que c'est un espace ouvert, trop compétitif, et on ne sait pas d'où arriveront les concurrents, surtout si on est un spéculateur et on pense à faire quelque chose de générique dans un format comme chaîne de caractère. Par exemple, point de musique, ou musica, ou point autre, hein, n'importe quoi, quelque chose de générique. L'importance de ceci, hein, c'est que le plus générique le nom, hein, les plus grandes les possibilités de marché, de marketing, et le plus de concurrence. Donc, vous vous êtes préparé peut-être pour une première partie du processus de demande, mais une fois il y a tous les idées, vous pourrez voir jusqu'à quelle mesure il vous manque encore de la préparation. Donc, faites vos devoirs, étudiez ceci en profondeur, hein, et vraiment faites-le dans cette perspective d'idées. Mais sachant que vous avez assisté à ICAN pour des jours, hein, je vous dis que la plupart des participants des gens d'ICAN connaissent certains éléments certaines parties des éléments et pas d'autres. Hein. Imaginez que maintenant vous pouvez couvrir tous les aspects des IDN. Vous avez identifié 4 ou 5 langues que vous devrez demander au-delà de l'anglais. Hein. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui est expert dans une langue et quelqu'un qui est expert dans une autre. Mais vous devrez avoir beaucoup de musique, disons, de musiciens, disons, hein, parce que c'est un orchestre, ceci. Donc, l'importance est d'avoir une stratégie globale dans les IDN pour gérer les différents experts et pouvoir le faire à niveau local pour qu'ils puissent être à niveau de votre planification stratégique pour le bon succès de votre affaire. Pour avoir une perspective, donc ma dernière idée ici, c'est que si vous voulez que ceci devienne une opportunité pour le succès du GTLD, ne pensez pas localement, mais globalement. Hein? Merci.
Carla, I think we're going to have some...
Je crois que nous avons un temps pour les questions, n'est-ce pas? Oui, nous voudrions que plus d'interactivité. Hein. Donc, si vous avez encore de l'information, donc veuillez la partager avec nous. Hein. Si vous pensez qu'on a dit et on n'a pas dit quelque chose, soyez libre d'exprimer votre opinion. Moi, j'ai certaines choses. Hein. Je fais une petite liste. Une petite liste de participation à distance ou provenant des débats que j'ai entendus dans les couloirs. Hein. Donc, première question, quels sont les problèmes plus habituels que vous connaissez de la part d'investisseurs ou des gouvernements ou de la communauté quand on traite cette idée, hein? Laissant de côté le temps hein, qui manque. Je sais que nous n'avons pas de temps officiel maintenant, hein, mais nous avons un plan de travail. Et quels sont les autres risques, les autres questions qui se posent parfois hein? Je pourrais commencer à parler des propriétaires de marques. Je crois que beaucoup des préoccupations des propriétaires de marques sur la participation sont les questions de coûts, hein, budget. Et bon, c'est une époque économiquement difficile et beaucoup ont des problèmes légaux, hein, des diminutions budgétaires, etc. Donc, ils essayent de rester actualisés hein, et ils cherchent à comment obtenir des fonds pour faire du marketing et pour protéger la marque. Et ça, c'est l'initiative de toute la compagnie. Hein, et il y a une autre question importante, que c'est de se dire si ceci sera réellement important et si les consommateurs vont participer. Tout le monde est très préoccupé hein, sur comment ou pourquoi faire que la compagnie investisse des milliers et milliers de dollars dans un programme qui n'est pas finalement l'importance attendue. Hein. Ceci dépendra du client, du modèle d'affaires, de la société de technologie. Notre préoccupation, c'est qu'on ne trouve pas le leader du processus. Et il faut beaucoup investir pour recherche, développement, pour des projets qui n'auront pas d'avenir. Hein. Donc, quand on regarde, par exemple, le produit au consommateur, bon, les préoccupations vraiment dépassent ce qui est habituel pour ce type d'investissement. D'autres questions? Je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit à ma présentation. Hein. Quand on parle de fonctionnaires de gouvernement, un défi, hein, c'est d'éduquer les fonctionnaires, justement, dans ce processus. C'est un processus très long si on veut arriver à un gouvernement et lui expliquer pourquoi il doit être en faveur d'un tel. Il y a un cas particulier d'un maire, par exemple, qui n'a même pas un ordinateur. Donc, comment faire que cette personne comprenne pourquoi un tel est important pour la ville hein? C'est très compliqué. Hein? Et donc, la question, c'est d'expliquer le pourquoi de ce besoin pour le gouvernement, mais aussi pour le secteur privé, aider à comprendre pourquoi ceci est important et même comprendre qu'il peut y avoir une évolution ici. Hein? Amadeo, je ne parle que de projets communautaires. Les problèmes essentiels sont liés à la communauté. Même dans notre cas, nous ne travaillons qu'avec des projets qui vraiment permettent à la communauté de s'engager. Il faut l'organiser, ceci. Mais en ce qui concerne le guide, hein, pour ce type d'organisation, ce qu'il y a de plus difficile, ce sont les garanties financières pour les exigences de continuité. Hein. La plupart des organisations à but non lucratif essayent d'obtenir l'argent et après, elles récupèrent cet argent au moment de demander les TLD. Hein. Imaginons une fondation, une NGO, bon, une fois ayant le TLD, nous aurons perdu tout l'argent. Hein. Donc, il faut trouver des formules pour opérer le registre, mais aussi pour la haute stabilité financière. Et c'est tout un défi pour beaucoup.
Khaled, Je peux partager des expériences intéressantes avec vous quant aux idées aux propriétaires des marques. Vous allez trouver cela très intéressant, certainement, lorsque les propriétaires des marques se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle nouveau GTLD. Le niveau de conscientisation était sur la base légale ou le niveau de la gestion de l'administration des entreprises. Alors, à ce moment-là, et je vais vous présenter une situation réelle. Lorsque le CEO d'une entreprise sait que ces nouveaux GTLD sont dans sa marque, il appelle son gérant légal et il demande que se passe-t-il avec ça et il voit l'espace. Et ils veulent savoir le point com ou le point net, ils assument que cela est très similaire. Alors, ils prennent la position qu'il n'a rien à faire, on se protège et on va leur présenter une plainte. Ce que nous trouvons, c'est que ceci est dû à une familiarité ou à la perception d'une familiarité de la part des propriétaires des marques qui croient qu'un nouveau GTLD est la même chose qu'un point com ou un point net. Nous trouvons que lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un sujet spécial avec les risques, les nouveaux GTLD et des risques qui viennent de l'IDN, en général, le département légal ne comprend pas tout cela et ils ne sont pas capables de répondre. Là, ils cherchent en profondeur pour comprendre la situation. Le grand défi, je crois, c'est la prise de conscience de ce qu'ils représentent, comment ils peuvent bénéficier, quels sont les risques pour que les gens soient en mesure de prendre des décisions informées. Voilà notre expérience. Merci. Jonathan, j'ai des expériences qui se répètent. Je dois annoncer que je verse ci maintenant. Je dois marquer mon territoire. Que se passe-t-il s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit publiquement qu'il va être vu? J'ai été le premier à faire cela et les autres m'ont suivi. Autre chose, je structure cela comme une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif? Ceci va nous affecter en dernière instance. Eh bien, voilà les deux questions qui me préoccupent le plus. Tout cela, je trouve que c'est en rapport lorsque l'on parle avec le gérant, avec les investisseurs, les gouvernements. Quelle est l'approche que vous faites du sujet concernant les ventes aux enchères? Je vais commencer avec cela, alors. La vente aux enchères a des retards importants. Elle représente l'une des meilleures opportunités pour recapitaliser une grande partie des pertes sur l'investissement. L'ICANN, par exemple, a des codes de sponsoring. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des grandes pertes ou avec des investisseurs qui ont des lignes de temps ambiguës. La vente aux enchères est considérée comme une opportunité de compenser ce facteur que je viens de mentionner. Et beaucoup parmi ces TLD ne sont pas considérés comme des centaines ou des milliers de registres, mais ils vont avoir du succès s'ils arrivent à avoir 5 ou 10 000 registres. Mais il y en a beaucoup qui pourraient être premium et les revenus de ces premiums vont compenser le coût de l'ICANN ainsi que d'autres coûts qui apparaissent dans le processus de registration. D'autres commentaires d'enregistrement, pardon. L'une des choses que je dis toujours aux gens en particulier, pour ce qui est générique, c'est le besoin d'attendre une vente aux enchères. S'ils ne peuvent pas supporter la charge de cette méthode, ils ne doivent pas se mêler de ça parce qu'ils vont perdre du temps et de l'argent. C'est important qu'ils comprennent cela dès le début. Et je dis aux gens que pour ce qui est de string de caractère, ils doivent attendre une vente aux enchères et les investisseurs sont compliqués dans ce sens. La plupart d'entre eux ne comprennent pas cet espace en particulier. C'est très difficile pour eux. Ils disent que cela va affecter l'investissement. Mais ils doivent attendre si cela se passe ou pas, parce que sinon, ils devraient abandonner leurs efforts là-dessus. Peut-être je n'ai pas compris la question. Je pensais que l'on parlait de vente aux enchères dans le contexte de lancement, et je crois que l'on parle d'enchères de contention. La plupart des TLD communautaires sont des institutions établies. Et ces institutions sont des institutions à but non lucratif, y compris les institutions publiques qui ne comprennent pas les enchères comme des mécanismes d'évaluateurs ou de non-évaluateurs vis-à-vis du TLD. C'est la panique paralysante, non seulement du point dans le cas des entités financières, mais il y a aussi des aspects de réputation qui se mêlent. Ça, c'est une question du chat room de la salle de bavardage. C'est une question très importante, je crois. Il y a beaucoup qui considèrent qu'ils ont un cas pour un plan commercial pour pouvoir faire quelque chose avec le nouveau TLD. Mais la possibilité qu'il y ait une enchère et l'incapacité d'avoir les fonds, tout en sachant que les investisseurs ne comprennent pas très bien l'espace. Et ceci peut se passer en termes de budget, en termes de 5, 10 ou 15 000 dollars. Ceci est terrible pour eux. Je pense à quelque chose qui m'amène encore à une autre question. On a parlé du planning et l'une des équipes de toutes les présentations, on parle de planning, de budget et on répète le budget. Alors, nous avons les 185 000 dollars avec les autres coûts que nous connaissons. Et alors, nous pouvons créer une table pour pouvoir faire le planning de tout cela. Puis après, il y a le coût de l'entreprise qui démarre. Alors, on met ensemble l'opération, etc. Mais en plus de ça, dans les secteurs spécifiques, comment croyez-vous que les personnes doivent établir le budget? Les gouvernements, les propriétaires des marques, nous savons que dans ce cas, c'est compliqué parce que ça dépend du portefeuille. Mais s'ils ont un portefeuille de 50 marques, ils veulent protéger ces 50 marques. Ils devraient attendre cela pour l'avenir. Il y a quelques types de sauvegarde à ce sujet. Je peux parler depuis la perspective des marques. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions parce qu'elles font partie de ce processus pendant les derniers mois et ils ont travaillé sur les budgets de l'an 2011. Il faut passer à la période de la demande qui prend du retard et cela revient au défi. Il y a en quelque sorte une fatigue entre les propriétaires des marques. Mais si on laisse cela de côté, il y a des clients qui ne demandent pas de nouveaux GTLD, mais ils anticipent qu'ils vont devoir s'opposer à une ou à plusieurs demandes. Alors, ils doivent avoir une certaine somme d'argent disponible pour faire face à ces procédures. L'objection coûte 5 000 $ et il faudra payer le panel et ceci n'est pas signalé spécifiquement. Il y a certaines catégories dont il faut tenir compte. Il faut séparer 50 000 $ pour couvrir tous les frais associés parce qu'il y a aussi des frais pour les avocats qui vont travailler dans la procédure, etc. Pour les clients qui ne font pas une demande, il faut séparer pour l'année prochaine entre 50 et 150 000 $ suivant le portefeuille et les risques associés du fait de demander l'une de ces marques.
Il y a des changements de stratégie et il faut considérer, pas pour 2011, mais en tout cas pour 2012, l'augmentation du budget dans l'espace de nom de domaine pour les nouveaux GTLD qui vont rentrer dans la racine en 2012. Pour ceux qui sont en train de demander, il est très difficile de savoir exactement quel montant, hein? Il faut penser qu'il sera un investissement important, hein? Si nous demandons un nouveau GTLD, il faudra donc mettre de côté $1 million dans le budget par demande pour être sûr de couvrir toutes les dépenses. C'est ça le montant que je peux vous dire, hein? Mais il y en a qui me disent même qu'il faut doubler ceci, hein? Et c'est très difficile pour ceux qui veulent financer le programme actuel et qui luttent avec le nouveau GTLD et qui doivent penser à se préparer déjà. Ce sont de gros chiffres, hein, pour avoir un point de départ. Hein. Mais après, les personnes doivent considérer qu'il faut s'associer, s'engager, savoir quel est le juice ou travailler avec quelqu'un qui puisse évaluer le modèle commercial, le portefeuille et savoir quels sont les chiffres qui peuvent aller avec la réalité. Et je voudrais ajouter quelque chose. L'expression « combien dure une chaîne, un string » dépendra du numéro qu'il faut établir. Et après, il faut dire ici, il y a une chaîne. Parce que avec la vente aux enchères, il y a une chaîne. On ne sait pas où on finira. Mais les étapes initiales, par exemple, $1 million qu'on mentionnait pour les propriétaires d'une marque, ils n'ont pas toucher l'IDN suffisamment, bon, c'est donc consacrer suffisamment à l'IDN, c'est un chiffre plus bas, très bas, hein, même sans enchères. Et tel que j'ai mentionné dans la présentation IDN, pour arriver à ceci, hein, une bonne partie de s'informer et de se mêler d'une analyse de risque d'IDN et de pouvoir comprendre exactement quel sera le terrain, hein, si on va demander point X et si ceci est valable en d'autres langues pour déterminer après, hein, s'il faut faire 5 IDN en autre langue. Donc on multiplie l'anglais par 5 plus tout le reste. Et nous arriverons à la conclusion que le plus que nous pouvons recueillir, c'est 1,5 million. Donc, il faudra chercher quelles sont les priorités dans chaque langue. Mais le propriétaire de chaque marque n'est jamais capable de prendre une décision, hein, de lui-même, sauf s'il peut faire la recherche. Donc, vous devez faire appel à des gens qui puissent comprendre cet espace. Vous devez comprendre vers où vous vous engagez, et vous pouvez... Vous avez l'obligation d'arriver à la conclusion de que peut-être vous ne pourrez pas le faire. Et donc, vous devez aller en arrière et accepter les conséquences. Amadeo. Par exemple, il y a une communauté avec une grande densité de population dans un territoire assez étendu, hein? Donc, ça va changer s'il y a des canaux de communication ou non. Il y a une grande quantité de possibilités. Mais dans la plupart, il n'y a pas des... Les travailleurs sont volontaires, hein, et ils ne vont construire qu'une plateforme ICANN, disons, hein, qui pourrait décider quel moment est arrivé. Je dirais que le chiffre en moyenne, hein, il faut les doubler, hein, jusqu'au moment d'enregistrer le nom, donc $500,000 et après $500,000 par année. Hein. Ça, c'est après un chiffre pour survivre. Hein. Mais doubler ce chiffre-là, ce serait idéal. Mais en tout cas, au moins $500,000 par année pour ce type de TLD. Hein. Deux questions de la salle de bavardage pour Amadeo. Point triple X, ça représente la communauté? Point triple X représente la communauté. Bon, c'est une question pour la prochaine session, hein? Eux, ils ont demandé, j'imagine, en 2004, je crois, que ceci représentait une communauté, mais dans une version différente. C'est une question pour Khaled. Quelle est votre évaluation sur la quantité de GTLD que nous pourrions avoir comme sollicitude, hein, comme demande. Hein, c'est, il faudrait deviner ceci. Hein. Je peux dire que le pourcentage d'IDN GTLD par rapport au GTLD ASCII en anglais seront plus bas. 5-10% des IDN par rapport aux IDN en anglais. Hein. En chiffres, c'est très difficile de mesurer ceci, hein, parce que dans les communautés où ICANN est connu, les nouveaux GTLD ont été très débattus, très discutés. Il n'y a pas de conscientisation suffisante du processus pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire, hein, surtout les propriétaires des marques. Mais quand on va aux communautés d'IDN, c'est un secteur un peu gris. Hein. Ils n'ont même pas la moindre idée. Ils doivent commencer dès le début. Hein. Moi, je n'oserais pas donner des chiffres, hein, mais en tout cas, ce serait très bas. Quelqu'un qui participe à distance dit que si les registrants existants ou le GTLD existant ont le même droit que dans l'ITLD international ici, je n'ai pas bien compris. Je lis hein, ici, si les registrants existants de GTLD hein, ont le droit au même IDN GTL que dans le TBL internationalisé. Je vais imaginer un peu ici, hein, parce qu'il y a un participant à distance, donc moi, je carla.com, j'ai une priorité en tant que registrant, hein, si j'aurais ceci dans une autre langue, par exemple. On n'a pas mis ceci sur le guide du demandeur, on ne sait pas qui va demander un équivalent, hein, donc il n'y a rien à ce propos dans le guide de candidature. Mais une fois ayant de nouveaux registres, hein, et eux, ils peuvent peut-être demander les IDN équivalents, mais nous ne savons pas si ceci sera un registre ou plusieurs. Et les politiques qu'ils auront pour les registrants dépendront de chaque registre. Il n'y a donc pas de système de normalisation dans ce sens pour le moment. Je voudrais ajouter que j'ai une opinion personnelle à ce propos. Avec une approche qui combine un ASCII et un IDN. L'idée d'activer les registres sur les deux, hein, par rapport aux deux. Je connais des gens hein, qui veulent enregistrer une version IDN de chaînes déjà existantes au premier niveau. Je crois que VeriSign veut obtenir .com dans d'autres langues. Et c'est une approche en ligne. Hein. Les discussions que j'ai entendues sur ceci, si on va dans une première approche de la version IDN des .com. La prochaine question.
Je vais parler des exigences financières, s'il vous plaît. Vous pouvez les identifier. Je vais avoir sur les exigences financières des TLD et je voudrais savoir quelles sont les limites sur le lien et le coût de l'application ou la valeur. Quelle sera donc la valeur de cette marque générique? Une question collective. Collectivement, je ne peux pas te dire quelle serait vraiment la réponse. Je vais te donner ma vision. Si je prépare une candidature, cela m'oblige à être très réaliste vis-à-vis de mes chiffres et de faire plus de planification des opérations, du coût, voir où je vais, hein. Je ne peux pas envoyer une candidature disant, eh bien, j'ai 5 millions de registres et mon modèle financier doit être fait en échelle parce que cette exigence est impossible. Je n'y arriverai jamais. Je dépenserai tout mon argent comptant à l'avance. Hein? Et c'est quelque chose d'impossible. Ah, mais en même temps, en ce moment, les règles, c'est comme ça. Et moi, comme candidat, je dois m'assurer que mes calculs et mon échelle de valeur, que mon modèle soit proche de la réalité. Sinon, je vais avoir une candidature avec 5000 domaines en tout, qui peut avoir 8 au moins. Alors, le coût opérationnel va être terrible et il va porter atteinte au secteur des investissements et de domaines parce qu'il va y avoir beaucoup d'investissements et pas beaucoup de dollars disponibles pour quelque chose qui va avoir des centaines, des milliers de domaines. Et ceci n'est pas attrayant pour l'industrie. Je crois donc que le processus de planning de la candidature est essentiel parce que c'est là où l'on décrit les choses d'une manière réaliste et c'est ce qu'il faut faire. Merci. Et j'ai une question, Jordan ou un autre participant, si vous voulez répondre. Pour ce qui est des fournisseurs de services, on revient aux fournisseurs de services. On a beaucoup parlé des candidatures, des entreprises qui peuvent l'aider à présenter des demandes de nouveaux projets de GTLD. Qui peut administrer donc la période d'enregistrement pour surfer dans tout le processus et les variantes qui peuvent dépendre du genre de demandeur ou de GTLD? Quel est le coût attendu, le coût associé à ces composants? Et si, par exemple, je suis un candidat ou je veux embaucher un fournisseur ou si je veux trouver le consultant qui puisse ou le conseiller qui puisse m'aider à passer par le processus, qu'en pensez-vous? Je crois que la meilleure réponse sera celle que l'on attend. Hein? Je vais parler en termes généraux. Il y a beaucoup de fournisseurs qui touchent un honoraire au préalable basé par unité de nom et il faut considérer aussi si les services d'IDN, de Sunrise, par exemple, ainsi que les services de validation sont inclus là-dedans. Il y en a qui vont investir dans cette propriété croisée, il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Et lorsque l'on s'assied pour faire le calcul avec les partenaires potentiels pour établir la relation stratégique comme celle-ci, par exemple, la meilleure des choses à faire, c'est de s'asseoir pour voir la manière de structurer le modèle et essayer de le tracer de sorte de mettre les poires avec les poires et les pommes avec les pommes. Donc, ceci va dépendre du modèle d'affaires et il y a des questions qu'il faut répondre à l'avance, le coût, l'organisation, etc. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de fournisseurs en concurrence dans l'espace et peut-être on peut vouloir s'associer à l'organisation avec certains d'entre eux et pour signer ou pour nous aider à avoir ces opportunités, à trouver les personnes nécessaires pour faire cela dans l'entreprise. Et je voudrais ajouter aussi, parce que les politiques de registre contiennent des sujets que l'on ne peut pas beaucoup influencer. Il y a dans le processus d'enregistrement, on va trouver des prix plus faibles, mais bien des fois, ce type d'application et leur validation comprennent plusieurs étapes qu'il faut respecter avec le fournisseur et il faut programmer tout ça pour que le service, tout cela fera que le service soit plus cher et l'honoraire sera donc plus élevé. Et ce genre d'opération aura un prix moins élevé pour l'utilisateur final. Et je crois qu'il est important de voir qui est-ce qu'on sélectionne. Si vous voyez les différents GTLD existants, Vous, si vous le regardez et voir ce qui est utilisé, voilà, c'est peut-être un facteur attrayant et c'est un point fantastique. Si votre activité est sophistiquée, eh bien, il faut voir s'il va y avoir des coûts de programmation additionnels qui obligeront à doubler la plateforme existante. Merci beaucoup. Pardon par les questions. J'ai pas pu avoir les chiffres, mais je vais essayer de faire de mon mieux. D'autres questions? Vous êtes prêt pour la réunion? Oui. Seulement aux fins du budget. C'est peut-être juste de dire un chiffre, mais je ne veux pas non plus le mentionner. Je sais qu'il y a des échelles entre 100 000 $ et 500 000 $. Voilà donc l'échelle. Hein? Mais ça dépend de la sophistication que l'on peut choisir. On peut échanger des conversations avec les fournisseurs. Alors, voilà donc ce que l'on a mentionné. Il faut inclure ces 185 000 $. Et je veux profiter de l'occasion pour dire que la diapo 4 avait une erreur. L'honoraire de transaction est de 0,25 centimes par nom. Merci beaucoup. Je voulais ajouter simplement un point important qui a déjà été mentionné. Quand on parle de qui va aider, qui va nous aider avec la candidature, on choisit quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider, qui va te guider. Il y a différents modèles commerciaux que l'on signe dès le début et on s'associe à quelqu'un d'autre. Et on travaille de manière conjointe. Et je crois que si on ignore là où on va aller, c'est trop tôt pour signer et pour prendre un engagement. Il faut d'abord faire les devoirs. Il faut mener des recherches. Il faut comprendre là où on va, qu'il ne s'engage pas pour toujours. Après la recherche et une fois que l'on connaît là où on va, on peut évaluer la recherche, mais il faut savoir qu'il faut être bien informé, il faut savoir comment ça continue, ou sinon qu'on prenne la chose au niveau du projet, au niveau de projet. Il faut aussi analyser le savoir-faire nécessaire et chercher le personnel adapté. Il ne faut pas s'engager dès le début avec quelqu'un si l'on ne sait pas où ça va finir. On a travaillé avec ce fournisseur final sur les candidatures et sur les opérations d'enregistrement et sur les services, etc. Mais pour ce qui est de la communauté, je vous conseille de parler avec des communautés similaires et que vous alliez chez le fournisseur, par exemple, dans le cas de Car, par exemple, moi j'ai été là et aussi à Point4, Icor était un fournisseur. On nous a contactés, on a été contactés par des initiatives culturelles et linguistiques et nous on a dit, votre cas est difficile, peut-être vous ne serez pas en mesure d'y faire face, mais si vous acceptez d'avoir des ressources ou des solutions techniques similaires pour vous tous, eh bien, on peut faire un pool de ressources et accepter en quelque sorte d'être standardisé dans la communauté ou dans les services. Et alors, on peut faire un pool de candidats et ceci pourrait fonctionner bien possiblement. Merci. Merci beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions? Carl, comment on est avec le temps, comme je vous ai dit au début de la présentation? Merci beaucoup à vous tous d'être présents. Merci de votre présence. Merci aussi aux participants à distance. You and your...